France Musique. France Musique, le casque et l'enclume, Lionel Esparza.
Bonjour à tous, vous étiez nombreux à réclamer le retour d'une séance critique sur France Musique pour l'opéra, le concert et le disque. Eh bien voilà, en cette rentrée 2023, on relance un club des critiques avec un titre qu'on a déjà utilisé jadis, dont on peut dire que le monde radiophonique entier nous l'enviait déjà dans ce jadis, le casque et l'enclume. Originalité, c'est du podcast. Un épisode, un sujet qu'on mettra à votre disposition par vagues plus ou moins régulières selon l'actualité. Pour le premier épisode, bilan du grand festival estival français Aix-en-Provence avec Emmanuel Giuliani de La Croix, Pierre Flinois de Classica et Christian Merlin du Figaro et de France Musique. Tiens, commençons par Emmanuel Giuliani. Je voulais qu'on commence par le positif sur ce festival d'Aix-en-Provence. J'ai l'impression, mais vous allez peut-être me rectifier, que le plus positif, ça a été le contemporain.
Oui, le contemporain et moderne, on va dire, à savoir, on va les mettre ensemble, la nouvelle création de George Benjamin, dirigée par lui-même et incarnée en particulier par une Marianne Crébassa vraiment éblouissante, une petite forme et un objet, enfin je sais pas ce que vont en dire mes camarades, mais assez parfait, c'est-à-dire que toutes les planètes étaient alignées, la mise en scène, la musique, l'interprétation, le lieu où ça se passait, dans le théâtre du Jeu de Paume. George Benjamin, moi je suis particulièrement sensible à ses œuvres plus ramassées, plus minimalistes, disons que ces grandes formes qui sont très impressionnantes, mais là il y a un concentré de tout ce qui sait faire au point de vue texture, traitement très subtil de la voix, grande émotion des thèmes et du sujet, une femme qui a perdu son enfant et qui est en quête, un voyage initiatique comme il y en a si souvent dans l'art et en musique en particulier, en quête d'un bonheur qui peut-être est justement dans le fait qu'il faut accepter que le bonheur n'existe pas. Et non, vraiment une très grande réussite, peut-être qui pourrait être encore un peu plus palpitante, mais je pense que c'est palpitante au sens du cœur qui palpite et non pas palpitante au point de vue de l'intérêt. Mais ça, je pense qu'au fur et à mesure de la... plus cette œuvre va rouler comme une vague, plus elle va s'épanouir.
Parfait comme spectacle, avez-vous dit, un petit peu trop parfait, Pierre Flinois. Moi, je ne l'ai pas vu, mais enfin, c'est peut-être le reproche que j'ai cru sentir par moments, trop beau spectacle pour être vrai.
Non, ça, ce n'est pas le problème. Je n'étais pas absolument fasciné par la mise en scène que j'ai trouvée un petit peu froide, un petit peu, comment dire, monumentalisée dans un espace qui est petit. Mais ce que j'ai surtout aimé, c'est qu'effectivement, la petite forme chez l'auteur, ça permet quand même de véhiculer l'œuvre assez facilement. Mais on se dit qu'il faut quelques chanteurs, un petit orchestre, et on peut monter ça aisément. Beaucoup plus difficile de monter les grandes réussites absolues de Benjamin.
Vous dire, c'est un petit peu opéra de poche.
Le terme est un peu réducteur, mais c'est de l'opéra qui fonctionne tout seul et qui est aisément accessible, et je dirais presque pour tout public, et avec en plus une qualité quand même qu'on a fini par retrouver, ce début de 21e siècle, après un 20e siècle qu'il avait oublié, l'émotion. Et ça compte quand même extraordinairement, parce qu'effectivement... En tout cas, moi, j'ai été ému par le drame de cette femme, par le fait que la musique le portait et était simplement en sympathie avec elle. Et du coup, on marchait. Bon, c'est déjà énorme.
Bon, la grande réussite du festival, donc, cette création, Christian ?
Oui, d'autant que c'était un défi, parce qu'il faut rappeler qu'en 2012, Benjamin avait connu à Aix un triomphe mondial et durable, qui est Written on Skin, et qui était un des grands chefs-d'œuvre de l'opéra, disons, contemporain, on peut le dire, du 21e siècle. Et recommander un opéra à Benjamin au même endroit, c'est une grosse prise de risque. On se dit, est-ce qu'il va faire mieux, moins bien? Et il a fait différemment. Et ça, c'était la meilleure solution possible, parce que Written on Skin était plutôt un opéra qui jouait sur la monumentalité, même si c'était très intimiste entre les personnages. Et là, disons que ce qui frappe, c'est une fois de plus sa très grande entente avec Martin Krimp, qui est, on peut même pas dire librettiste, mais presque co-auteur, parce qu'ils conçoivent les histoires et le déroulement musical ensemble, ce qui fait qu'on a vraiment ce qu'on attend d'un opéra, c'est-à-dire une osmose. En revanche, alors, moi j'ai eu, malgré tout, une certaine sensation de froideur lors de la création. Alors peut-être était-ce la comparaison inconsciente avec Written on Skin qui vous prenait aux tripes immédiatement. Peut-être le fait aussi que cette partition de Benjamin, qui est d'une subtilité et d'un raffinement incroyable, mais est très ciselée et peut-être parfois au détriment de quelque chose de plus brut. Mais surtout, la grande question quand on assiste à une création, c'est quelle part faire à l'interprétation et à la musique, à l'œuvre elle-même, puisqu'on n'a pas de point de comparaison. Et comme Pierre, je pense que la production, la mise en scène, n'est pas allée assez loin dans ce qu'on pourrait apporter d'émotions supplémentaires à cette œuvre. Elle s'en est tenue à une certaine froideur. Et comme l'écriture est déjà très, très, très raffinée et très ciselée, ça faisait quelque chose d'un tout petit peu léché. Mais là, vraiment, je pinaille, parce que c'est une grande chose.
Moi, je pense que la grande question en cas de création, elle est tout simplement, ai-je envie de le revoir ou de la revoir
à coup sûr.
Et là, la réponse est oui, pour moi, sans hésiter.
Alors, si on a envie de le revoir, tiens, je vais donner le titre quand même, Picture a Day Like This, cet opéra donc de George Benjamin, qu'on pourra revoir à Strasbourg et à Paris, à l'Opéra Comique, qui sont des coproducteurs. On aura peut-être l'occasion d'en reparler à France Musique. Donc, grande réussite de ce côté-là. L'autre, alors si j'ai bien compris, puis en plus je l'ai vu celui-là, c'est vrai que c'est un superbe spectacle, Le Veau de Sec, mis en scène par Simon McBurney, musique d'Alban Berg, lui aussi très attendu, d'autant plus que Simon McBurney avait donné Emmanuel Giuliani à Aix-en-Provence, il y a quelques années, une flûte enchantée qui était assez
magnifique
incroyable.
Magnifique flûte, et un très beau, scéniquement, parce que musicalement c'était assez infra en tous les cas, à mon avis, un très beau Grex Progress de Stravinsky aussi. Alors, en effet, là aussi, un spectacle très impressionnant de cohérence et de d'articulation très impressionnante entre ce qu'on voit, ce qu'on entend, la dramaturgie, la qualité des interprètes. Alors c'est un vote sec qui creuse plus notre attitude de spectateur vis-à-vis de cette histoire et de cette psychologie tragique. C'est pas un vote sec coup de poing. Oui. C'est un vote sec qui infuse plutôt. Alors, c'est vrai que si on veut, ce qui arrive souvent dans des productions réussies de vote sec, en sortir complètement laminé sur le flanc, et notamment après les deux accords et surtout le dernier qui suit le meurtre de Marie, se dire bah en fait l'histoire de la musique aurait pu se terminer là et l'histoire de l'émotion humaine aurait pu se terminer là, c'est pas ce que va offrir ce vote sec là, qui a une espèce, pas de positivité mais d'objectivité que l'on peut trouver justement un peu trop distante. Oui. En revanche, 2-3 jours plus tard, il reste extrêmement présent et efficace, à mon sens. Et puis, une magnifique distribution. Oui. Christian Gerhaer est, comme toujours, enfin, éblouissant. Il n'est pas éblouissant. Il est tout. Ne serait-ce que dans les deux premières scènes, la manière dont il prononcera à chaque fois différemment le nom de Marie, tantôt de manière désespérée, tantôt de manière complètement intériorisée. Mais rien que ça, ça mérite d'aller l'entendre toujours et partout. Et mes camarades vont parler de l'orchestre et de la mise en scène. Et
évidemment, Christian Merlin.
Oui, c'est très curieux parce que j'ai à peu près les mêmes sensations en sortant du vote sec qu'en sortant de Picture a Day Like This de Benjamin. C'est-à-dire la conviction que je viens d'assister à quelque chose de parfait et de magnifiquement réussi, mais la difficulté à trouver mon émotion à moi. Alors c'est très subjectif, je sais bien que là, la réaction personnelle à un spectacle, il n'y a rien de plus difficile à théoriser ou à objectiver. Peut-être est-ce dû aux attentes, à l'horizon d'attente. Emmanuel l'a très bien décrit. Moi, j'ai tendance effectivement à attendre de votre sec un coup de poing dans le ventre. Je ne l'ai pas eu. Je suis sorti du Grand Théâtre de Provence tout à fait lucide et
content.
On peut en témoigner.
Alors, c'est très. Alors oui, c'est vrai que c'est un spectacle qui insiste beaucoup sur la mécanique la manière dont un être humain peut être pris dans j'allais dire, un engrenage, une sorte de roue dentée, parce que de fait, c'est ce qu'on voit, ce sont des cercles concentriques qui tournent, et tout ça est réalisé avec une cohérence absolue que l'on retrouve aussi dans la direction d'orchestre de Simon Rattle, avec le London Symphony quand même. Tout ça n'est pas rien. Mais tout ça est presque trop léché. J'aurais attendu un petit peu plus de tripes. À l'air, si vous me passez l'expression. Et donc, ça m'a frustré, mais tout en étant, objectivement et honnêtement, obligé de rendre les armes devant tant d'accomplissements, et y compris, par exemple, de la Marie de Malin Lindström, qui fait une Marie, alors pas du tout, ni wagnérienne, ni expressionniste, ni criarde, mais au contraire, tout en finesse, tout en délicatesse, ce qui est un tour de force, mais qui est possible grâce à cette direction d'orchestre, d'ailleurs. Donc, tout ça est magnifique, mais encore une fois, un soupçon de froideur.
Ouais. Pierre Flinois.
Même impression, totalement partagée. C'était magnifique et en même temps, pour moi, ça n'était pas totalement votre sec. Parce que moi, j'attends toujours le coup de poing. Et vraiment le coup de poing violent. C'est parce que je suis sorti totalement déchiré de quelques productions et exécutions.
Dont celle de Chéreau, par exemple,
j'imagine. Dont celle de Chéreau, oui. Effectivement.
On ne pouvait pas s'empêcher d'y penser.
Trois heures m'a obligé à essayer de retrouver mon
calme.
Mais bon. Mais ça n'arrive pas à chaque fois. Ce qui m'a frappé, c'est que j'avais eu la chance de voir Gerhard faire votre sec à Munich il y a 2 ans. Dans une superbe production, très décorative quelque part, mais qui fonctionnait absolument parfaitement et qui déchirait littéralement le spectateur. Et la production de McBurney fonctionne très bien. Le côté concentrique, cercle, finit par devenir un peu obsessionnel parce qu'on finit par attacher son attention à ce jeu
ça
de tournette.
Au dispositif.
Tout à fait. Et ça, quand on voit le moyen, ça veut dire qu'on n'a pas réussi le résultat. Et puis, il y avait des décors, enfin, des projections sur le fond de décor et sur les côtés de volets, de façades de HLM, etc., qui m'ont semblé un petit peu anecdotiques, etc. Finalement, je préfère les votes secs nus. Parce que cette histoire, ils sont effectivement nus face à un destin monstrueux. Et là-dessus, Simon Rattle nous apporte une vision absolument colorée, chaleureuse, etc. Extrêmement adoucie, arrondie en tout cas. Là aussi, on peut dire que Vossek, c'est Berg, c'est très viennois et on a des interprétations de l'Orchestre Philharmonique de Vienne notamment qui sont d'une délicatesse d'angle formidable, mais moins, comment dire, on avait envie de caresser la musique. Et pour votre sec, pour moi, c'est pas possible.
Pas assez d'arrêt.
Donc, un superbe spectacle avec des petites réserves. Bon, mais c'est encore une fois du domaine de l'intime, comme disait Christian, parce que chacun réagit. La plupart des gens avec qui j'ai pu parler étaient ravis. C'est terrible à dire, on ne peut pas être ravi de votre sec, mais ils avaient trouvé ça formidable. Non,
si on avait tout le temps des spectacles de ce niveau, nous serions
bien contents, je crois.
Je crois qu'un des mérites de ce type d'interprétation, alors peut-être en effet un peu avec tout le confort moderne, c'est que ça a fait dire, on a toujours les oreilles qui traînent, à des personnes qui étaient venues...
Qui appréhendaient.
Et qui appréhendait en disant cette musique un peu compliquée, se dire, mon Dieu, mais comme ça chante, mais comme c'est beau, mais quel orchestre. Mais finalement, ce n'est pas du tout cette école viennoise qui n'est pas pour moi et qui est compliquée, etc. Donc, plutôt qu'aller le faire au Stade de France, etc., pour, on dit, ça démocratise l'opéra, des versions qui jouent sur la musicalité plus que sur la force dramatique, pour résumer, elles ont peut-être aussi ce mérite-là auprès d'un public qui se forme l'oreille.
Vossek donc, au Festival d'Aix-en-Provence, au mois de juillet. Là, on était encore du côté des réussites, alors en négatif, Eh bien, le Mozart de cette année, ce qui est vrai que c'est tout de même un peu questionnant. Enfin, je dis en négatif.
C'est toujours ça.
C'est toujours un petit peu le cas remarqué depuis des années. Moi, je ne l'ai pas vu, mais en fait, tous les retours que j'ai eus étaient assez calamiteux sur ce Mozart mis en scène par Dmitri Tcherniakov, dirigé par Thomas Engelbrock, Così fan tutte et déception générale. Est-ce que vous la partagez? Est-ce qu'il y a une raison d'ailleurs à cela? Est-ce que vous arrivez à mettre un mot dessus, Christian Merlin?
Ah non, toujours pas. Et j'y arrivais déjà pas à l'entracte. J'avais à côté de moi, à ma gauche, une voisine qui s'appelle Emmanuel Giuliani. Oui. Et qui était très en colère et qui attendait de moi que je partage sa colère. Et en fait, moi, c'était plutôt de la perplexité. Je lui disais, mais mon problème, c'est que je ne sais toujours pas ce que je suis en train de voir. Et j'ai toujours pas compris ce qu'était ce spectacle. Donc, j'en suis arrivé. Dans ces cas-là, j'essaye de faire des grandes théories.
On se rattrape comme on peut.
Oui,
hein.
Exactement. J'en suis arrivé à me dire qu'il y avait un problème de cadre. Que c'est un spectacle qui, en soi, pouvait très bien avoir des qualités extrêmement stimulantes et maligne et intelligente, mais qui n'était pas présentée dans le bon cadre, au bon endroit. Ça aurait dû être dans un festival off, un peu expérimental.
Parce qu'il nous raconte autre chose que voilà. Cosy, en fait, c'est ça.
Si,
hein.
Quand même, il
c'est
fait quand à la Tcherniakov, mais ce sont bien les personnages de Cosy, mais plus vieux, et qui se retrouvent. Ils ont vécu toute une vie, et ils participent à une forme d'expérience d'échangisme. C'est une idée brillante à la Tcherniakov, qu'il aurait pu mener jusqu'au bout. Et ça, c'est un premier problème. Il s'est mélangé les pinceaux, sans doute parce qu'il, comme souvent, il n'a pas eu assez de temps. Il faut dire que Tcherniakov, quand vous faites le planning de répétition, et que vous avez Tcherniakov, vous savez que vous le perdez déjà pendant la première semaine.
Quand vous payez votre place de 100 euros, vous n'attendez pas que le mec soit perdu en route.
Mais il somatise tellement qu'il est toujours malade au début des répétitions.
Ah bon.
Et donc, il a moins de temps pour travailler la fin. Donc déjà, la fin, visiblement, il n'avait plus d'idées.
D'accord.
Et puis, l'autre chose, surtout, c'est que là, en l'occurrence... on a été jusqu'au bout de quelque chose, c'est-à-dire faire coller le choix de la distribution au concept d'origine, c'est-à-dire prendre aussi des chanteurs qui ont l'âge du rôle et de personnages plus âgés et qui, pour certains, ont déjà chanté ces rôles-là, mais il y a plus de 20 ans, et qui ne sont plus capables de le faire. Mmh. Et donc, vous avez là un double problème, une mise en scène qui aurait pu être brillantissime, mais qui n'a pas été aboutie, et avec une distribution qui n'arrive pas à la chanter.
Pierre Flinois, la fin du système Tcherniakov, on peut dire ça avec ce Cosy?
Oh non, il est prêt à rebondir sans
aucun
problème.
Il a plus d'un tour dans son sac.
Exactement. Mais c'est vrai qu'à force de triturer les œuvres parce qu'on ne veut pas les laisser s'exprimer naturellement, je dirais, on finit quelquefois par aller dans le mur. Alors, en même temps, bien évidemment, ce monsieur est diablement intelligent et il arrive toujours à nous piéger. Donc, un peu comme Christian, à l'entraque, je ne savais pas vraiment où j'en étais. J'étais tout seul, je n'avais pas Emmanuel à côté de moi.
Vous avez de la chance.
Mais on peut traiter Cosy un petit peu à la gaudriole. Moi, ça ne m'a jamais intéressé. On peut traiter Cosy avec une espèce de nostalgie d'un bonheur perdu, avec une interrogation sur les rapports de couple. Il y avait de ça dans la proposition, mais avec une telle violence, avec un tel acharnement à détruire quelque part, dont il sait parfaitement qu'elle est imparfaite si on n'accepte pas une forme d'illusion théâtrale. Mais ça, c'est dans l'œuvre, c'est dans Dapente, c'est dans Mozart, c'était accepté. Et ça me convient très bien. On sait que c'est quelque part une farce, que chacun est conscient de ce qu'il fait. Là, c'est tellement appuyé. Donc, déception globale.
Et Emmanuel Giuliani, lâchez-vous un peu sur ce Così fan tutte.
Oui, c'est vrai. Moi, j'ai vraiment rien aimé du tout. Il y avait eu, comme souvent avec, c'est d'ailleurs fort intéressant, une rencontre publique avec les metteurs en scène justement du Benjamin de Cosy et non pas Simon mais Gérard McBurney, son frère, qui est son dramaturge. Et ce qui était très très frappant, c'est Dmitri Tcherniakov qui parlait d'ailleurs très aimablement, très gentiment et qui répondait aux questions du public, n'a pas parlé une seule fois de la musique. Et même pas du livret de la Ponte. La seule chose qui l'intéressait dans Cosy, l'a-t-il dit, c'est la manipulation. Mais comme les jeunes gens, ça l'intéresse pas, il voulait que ce soit des cinquantenaires. On avait un peu envie de lui dire, une œuvre théâtrale dramatique avec de la manipulation et des cinquantenaires, tu vas trouver.
Oui, oui.
Que diable ?
Pourquoi Cosy ?
Si, en effet, la musique, en tant que cohérente ou au contraire en contraste choc avec avec ce qui l'intéresse, la manipulation de couples qui ont déjà vécu. C'était pas ça son problème. Donc ça partait un peu étrangement. Et après, ça arrive comme c'est parti, d'autant plus que... Alors là, je sais que certains, c'était pas partagé dans le public et la critique. Moi, je n'ai pas du tout non plus aimé la direction musicale.
Ah bah non,
que j'ai trouvée pataude, cherchant des tempi et ne trouvant jamais le bon, ralentissant à certains moments. Donc ça, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup d'action et pas beaucoup de vivacité, donc là c'était complètement plombant. En revanche, expédiant le trio des vents à toute berzingue, sans la moindre poésie, sans rien du tout. Donc déjà, ça c'était difficile. Christian a dit une distribution qui au mieux était terne, au pire était d'une vulgarité sans nom. Nicole Chevalier en Despina, c'est pas possible de chanter comme ça. Georg Nigel en Alfonso, ne pouvant pas chanter le rôle, il s'est dit bah puisqu'on joue votre sec, je peux bien au même festival,
ah oui,
je peux bien faire
oui.
un peu de Sprechgesang. Je vais rester dans la note. Donc
c'est
5 minutes
étrange,
hein. Ça va, mais on n'en peut plus.
Et puis
au
c'était
bout d'un
en
moment,
même temps
on
parce que
plus.
Là ça c'est le côté se voulant moderne, mais alors en même temps retour vers le futur parce que ils chantaient tous l'italien avec l'accent allemand,
oui,
et ça
oui.
on l'a plus depuis les années 50,
oui,
les
oui.
disques de Paul Schoeffler et même de la jeune Elisabeth Schwarzkopf où ils commençaient tout juste à chanter en italien, c'était plus
ils
dans
avaient
le,
pas eu de répétiteur ou c'était volontaire,
bah, je ne sais pas.
C'était
je
très
sais
étrange.
Pas.
Très,
c'était,
très étrange.
C'était déjà sans doute tellement difficile, et ça c'est à la limite de la maltraitance d'artistes, je trouve, de leur ils avaient qu'à refuser, vous me direz, de chanter ces rôles quand même très exigeant, alors que les moyens vocaux... Quelqu'un
non,
comme Rainer Trost, il a le style. On sent qu'il a été... Mais il n'arrive plus à maintenir
il
l'intonation.
Était mon cosy dans les années
voilà.
90.
Donc, il y a des moments où on se dit, mais lui, il sait ce que c'est. Mais il n'y arrive plus. Donc, c'est même douloureux.
Non, mais
moi,
je crois qu'ils étaient
moi,
prêts
j'avais
à jouer le jeu. Hein.
Oui,
le théâtre a pris le pas sur la musique, évidemment. Et c'est peut-être... une espèce de leçon à garder de ce spectacle, c'est qu'il y a des limites à poser.
Le Festival d'Aix-en-Provence, édition 2023, par les critiques du Casquet-l'Enclume. Merci à tous les trois. Merci aussi à Maud Nourry, Margot Page et Guillaume Leplège. Merci à vous de votre écoute. De nouveaux épisodes du Casque sur francemusique.fr et sur l'application Radio France.
À réécouter sur francemusique.fr.